Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, surtout quand il y en a des nouvelles qui sortent. Et aujourd'hui, c'est le cas, alléluia, on va parler de « Je te veux, moi non plus », un film avec Inès Reg. Et autour de la table, j'ai des connaisseurs en rom-com, puisque à mes côtés, j'ai Perrine Kenson, hello.
Hello.
Et François Houlac.
Salut Daniel.
Et alors, moi, il m'a fallu un peu de temps pour imprimer cette comédie dans mon cerveau. Déjà, je trouve que le titre est pas super. J'ai jusqu'à il y a une minute avant l'enregistrement de l'émission, je me suis dit merde, c'est quoi déjà le titre de ce... j'ai un problème avec Je te veux moi non plus. Je trouve que c'est le titre le plus passe-partout de l'histoire de la comédie française. Et pourtant, il y en a eu des histoires de truc muche mode d'emploi, truc muche l'amour c'est mieux à deux. Enfin vraiment, et celui-là Je te veux moi non plus, j'ai du mal. Et peut-être que c'est ma faute. Hein, je botte en touche. Et alors, il faut quand même présenter Inès Reg. Alors, Inès Reg, c'est une... comment on peut dire ça? Une nouvelle sensation du rire? Je sais pas comment vraiment l'expliquer autrement que par une sensation internet. Est-ce que ça a un sens pour vous? Je ne sais pas.
Ouais, puisqu'elle a percé avec la fameuse phrase, là, « Mets des paillettes dans ma vie, Kevin », donc du jour au lendemain, et grâce aux réseaux sociaux, Instagram, tout ça, elle s'est retrouvée sur le devant de la scène, et évidemment, c'était déjà une humoriste, si j'ai bien compris, c'était déjà une humoriste professionnelle avant de percer avec la phrase, mais du coup, ça a concrétisé des choses pour elle. Moi, je l'ai vu dans des affiches dans le métro, j'ai vu qu'elle avait elle avait enchaîné avec un one-woman show, donc c'est avec une petite phrase comme ça, j'ai l'impression que ça a débloqué sa carrière, quoi. C'est assez dingue.
Et toi, Perrine, tu connaissais... Est-ce que t'as pas découvert le phénomène un peu comme moi? Moi, j'ai eu du mal à remettre un petit peu. Toi, qui es plus au fait des humoristes d'internet.
Non, mais Inès Reg, oui, j'ai découvert comme tout le monde cette fameuse vidéo Instagram où on a tous cru au début que c'était un truc un peu vrai, et puis en fait, très rapidement, on a compris que c'était Inès Reg qui était une comédienne de stand-up. Et c'est vrai que, après, moi, je l'avais entreaperçue ensuite dans un Marrakech du rire, si j'ai bien compris, elle a fait un peu ses armes avec le Jamel Comedy Club. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez récente sur la scène du stand-up. Elle avait son one woman show qui avait commencé à l'automne dernier, en tout cas vers septembre je crois, et qui a dû être arrêté un petit peu plus vite que prévu, malheureusement pour elle. C'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui a un parcours un petit peu intéressant, de savoir qu'elle a fait des études de droit. Et que, en fait, elle s'est aperçue pendant ses études de droit qu'elle préférait écrire de la comédie et faire des spectacles et des vannes. Et c'est comme ça qu'elle a arrêté le droit pour aller faire le Jamel Comedy Club. Donc en soi, c'est une belle vocation qu'elle s'est trouvée là.
Donc quand elle fait du droit dans ce film, puisqu'elle est avocate dans ce film-là, c'était pas du pipeau, c'est vraiment...
C'est pas du pipeau, elle a vraiment fait des études de droit, ouais.
Ah, merci pour cet éclaircissement, parce que tel qu'elle le joue, t'as pas l'impression que c'est réel à un seul moment.
C'est vrai, je me suis dit la même chose, surtout que dans les rom-com d'habitude, il faut toujours que l'héroïne ait un métier très fancy. J'ai jamais vu d'héroïne de comédie romantique être barista à Starbucks. Elles sont toujours genre journalistes dans des magazines de mode, ou enfin elles font des métiers très CSP+. Il y a un truc de très connoté socialement dans la rom-com.
De
et
classe,
du coup,
ouais.
je me suis dit bon bah OK, ils l'ont fait avocate, parce que avocate c'est un métier qui est perçu très classe, tu vois, par le spectateur. Donc OK, c'est marrant d'apprendre qu'en effet, elle a vraiment fait des études de droit, donc il y a un fond de vérité là-dedans, quoi.
Alors, ce que j'ai lu aussi, c'est dans une interview, c'est qu'en gros, elle avait vu le film Police de Mai Wen, et c'est en voyant le film Police qu'elle elle a découvert, enfin, en tout cas, elle est tombée en amour, j'ai envie de dire, avec le métier d'avocat, et qu'elle s'est dit que c'était ça qu'elle voulait faire, mais qu'elle s'est aperçue au cours de ses études, je ne sais plus au bout de la combientième année, peut-être pas beaucoup, visiblement, de ce qu'elle avait l'air de dire, et qu'en fait, bon, voilà, fallait peut-être qu'elle se trouve peut-être une autre vocation.
Peut-être que, oui, peut-être qu'elle a fait, elle a fait 15 ans la première année, on sait pas. Hein.
Que ça lui a pas mais, beaucoup plu, en tout cas.
C'est comme si je te disais, ouais, j'ai vu un film l'autre jour, Lord of War, et du coup, je suis tombé en amour avec le métier.
C'est génial.
Ah bah c'est écoute, cool. Les carrières qui se... Putain, j'ai vu Casino hier, c'était super, ça m'a donné envie.
J'ai voulu faire dealer de baguette. Et...
Alors, très loin des considérations des dealers et autres métiers criminels, elle, son délire, c'est qu'elle a un meilleur ami qui est joué par son homme à la ville, donc qui est joué par Kevin DeBonne, et qui joue son meilleur buddy avec qui ils ont fait les 400 coups, mais qu'elle va se rendre compte que, à force, alors que pourtant, littéralement, il est sous-entendu qu'il nique à droite à gauche, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle n'en peut plus, elle a besoin de lui, et en fait, elle a besoin de lui, et va naître une relation de très grande jalousie entre Inès et Kevin. Moi, j'ai une tendance à dire, dans les rom-coms, il faut qu'on tombe un petit peu amoureux des deux personnages, et je trouve que Inès, elle tire vraiment la couverture à elle. Je trouve que le mec est un peu transparent.
Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai fait un peu le même constat. Je m'attendais pas à quelque chose de bien joué, en fait, et j'ai pas été déçu, parce que c'est ce qui s'est passé. La plupart des acteurs, des actrices du casting, il y en a qui sont pas mal quand même. Les personnages secondaires, j'ai trouvé que voilà, les performances étaient tout à fait honorables, etc. Inès Reg, c'est vrai qu'elle surjoue un peu, et parfois elle peut être un peu agaçante, mais en tout cas, elle joue. Elle joue la comédie. Le problème que j'ai avec Kevin DeBonne, donc, qui joue le meilleur ami d'Ilan, c'est qu'on dirait qu'il joue pas. On dirait un mec normal au milieu d'acteurs, on dirait un mec de télé-réalité au milieu d'un film, en fait. Il arrive dans une pièce, il fait « Salut, salut Nina ». Enfin, Nina, c'est le prénom du coup de Inès dans le film. « Salut Nina, ça va ? T'as bien dormi ?»« Ouais, ben moi, ouais, ça va, ouais. Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va à la plage ?» Et il parle comme ça, on dirait un mec normal. C'est trop bizarre.
Et il a pas d'intonation, il est très... Alors, on va pas parler d'encéphalogramme, mais au moins, sa voix, il est monocorde, il a aucun... Sa colère est monocorde, son envie sexuelle, puisqu'il faut qu'il traduise ça quand même en tant qu'acteur, elle est monocorde aussi, en fait, il est très monocorde, en fait. Je me demande, je connais rien du tout de la carrière de ce garçon, mais je me demande si peut-être il aurait peut-être fallu prendre quelqu'un qui a vraiment une expérience une grosse expérience de comédien, ou au moins quelqu'un qui a ça dans le sang. Je ne connais pas sa carrière, mais en tout cas à l'écran c'est pas super.
Bah, c'est rigolo ce que vous dites, parce que c'est marrant, j'ai presque l'observation inverse, en fait. Moi je trouve, alors en effet il est pas alors lui il est l'inverse du surjeu, il est dans le sous-jeu, c'est-à-dire qu'il voilà, il fait pas beaucoup, mais en même temps il me paraissait presque le plus normal de cette histoire, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné il y avait tellement d'outrance chez certains personnages, alors je veux bien croire que pour aussi la comédie on a besoin peut-être de pousser des curseurs, mais là en fait c'est-à-dire que notamment le personnage de Nina, donc d'Inès Reg, est pour moi tellement, elle m'énerve tellement, j'ai tellement pas envie qu'elle réussisse à le séduire, que le fait est que finalement lui je le trouvais particulièrement charmant. Et alors c'est bon, parce que tu parlais du fait qu'il chope à tout va, visiblement, qu'il a un appétit. Mais alors, c'est vraiment littéralement ce que j'ai pas du tout compris dans le film. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas du tout là-dedans. C'est un gars, depuis du début jusqu'à la fin, qui ne fait que répéter qu'il est amoureux d'elle, en fait. Et à aucun moment, je ressens cette espèce d'appétit sexuel ou autre, ou le fait qu'il enchaîne les conquêtes. Ça n'est jamais la question. Moi, j'ai plutôt l'impression du gars qui n'attend que elle. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, le retournement de fin, à un moment donné, je ne le comprends pas du tout, parce que je ne l'ai pas vu venir. Mais lui, je le trouve pas si mal. En fait, je le trouve plutôt charmant. Là où elle, franchement, je trouve son personnage pas du tout... tu disais, François, qu'il faut un peu les aimer. Ouais. Moi, elle, j'arrive pas à l'aimer. Elle m'énerve au dernier degré. En fait, je la trouve pas gentille, agressive, manipulatrice. Elle sait qu'il a des sentiments pour elle. Elle en joue. Enfin, c'est vraiment un truc que j'arrive pas du tout à l'apprécier, en fait, ce personnage.
Je vais aller plus loin que toi, Perrine. C'est que je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Et c'est un truc. Le principal truc qui m'a gêné dans ce film, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup les rom-coms. À la fois. Même les françaises, franchement, même les françaises.
Mais il y en a des super.
J'ai bien kiffé. Ouais, ouais, franchement.
Et il n'y en a pas assez, en plus. C'est un genre qui disparaît. Je sais pas pourquoi.
Ouais, ouais.
Il a été Netflixisé et maintenant, on en a plus sur,
et c'est,
au cinéma.
C'est con parce que je trouve que, je sais pas, ça se consomme facilement et tout. Bon, c'est un tout autre genre, mais dernièrement, j'ai enfin fini Love de Judd Apatow et vraiment, j'étais aux anges, j'ai bien kiffé. Enfin, j'aime beaucoup les rom-coms à la fois américaines et françaises. Et pour moi, il manquait, du coup, tu parlais, Perrine, du retournement que t'as, de fin que t'as pas trop compris. Et c'est ça qui m'a frustré, en fait. C'est que, normalement, dans une bonne comédie romantique, t'as deux personnages au début qui sont évidemment jeunes, beaux et séduisants, ce que vous voulez.
Et un peu antagonistes.
Et qui peuvent pas se piffrer. Voilà. Ils peuvent pas se piffrer, normalement. Et au début, tous les opposent, ils se détestent. Et c'est là que t'as le côté comme. Et ensuite, le côté rom, ça vient plus tard quand ils se découvrent qu'en fait, ils sont pas si éloignés l'un que l'autre et qu'en fait, ils sont faits l'un pour l'autre. Et le problème dans ce film, je trouve, dans l'écriture, c'est qu'il n'y a pas cet antagonisme, en fait, au début du film. Ils sont super amis, donc ça, c'est bien. Mais même, en fait, au sein même de ce thème de l'amitié, il y a des trucs super intéressants à exploiter. En fait, le sujet de la friendzone, c'est un sujet super cool, super frais, super moderne. Comment est-ce que tu fais quand t'es amoureux de ta meilleure amie pour sortir de la friendzone? La meuf, elle te voit pas, elle te cala pas, t'es invisible à ses yeux, t'es pas sexué. C'est super intéressant. Ça veut dire, c'est un sujet super ambigu. Ça peut créer des scènes de malaise et donc, du coup, de comédie super intéressante. Et puis, il y a un truc à perdre.
Tu connais les amis, ouais. Tous les amis sont en commun déjà, et voilà.
Et puis, il y a un truc à perdre. C'est-à-dire que la question, écoutez, quand j'étais au lycée, c'était il y a très longtemps, j'étais un petit peu in love de ma meilleure amie, ok? C'est la question que tu te poses quand t'es amoureux de ta meilleure amie, c'est. Ben, le problème, c'est que si je l'avoue mes sentiments, je vais perdre notre amitié et je vais tout perdre, en fait. Ça se trouve, je vais me faire bâcher et en plus, je vais perdre, du coup, mon ami. Et ça, c'est super intéressant comme sujet. J'aurais voulu, en fait, qu'ils explorent cette piste, en fait, parce que c'est ce qui leur est arrivé dans la réalité, si j'ai bien compris, et je pense que ça aurait dû être mis dans le film, sans forcément en faire une perle de complexité, tu vois.
François, tu mets le doigt à mon avis, un des problèmes du film. Alors, j'ai parlé de Kevin, qui est dans l'underplay américain, on va dire pudiquement. mais le problème du film, c'est que il y a un problème d'acte, en fait. C'est que la fin on nous présente Constance Labbé, qui est supposément le crush de sa life, vraiment. Ah, c'est la femme, c'est l'élu, elle est magnifique, elle était, comme disait mon prof de français, elle était moulée pour l'amour. Enfin, vraiment, je me rends compte que j'avais un prof de français super problématique, en fait. Et elle arrive, elle débarque dans leur vie, elle dynamite littéralement leur amitié, et c'est ça qui est intéressant. Ça dure 10 minutes.
Mais oui.
Ça dure 10 minutes, et après les 10 minutes, ils s'avouent leur amour, et ils sont ensemble. Et là, on tombe dans une espèce de tunnel où ils sont ensemble, et ensuite, et là, la fin du deuxième acte, c'est comme s'ils étaient un couple toute leur vie, et là ils se séparent, et puis pour se remettre à la fin, je trouve qu'il y a un problème d'écriture assez simple, en fait, de l'ordre de la rom-com. Il y a beaucoup d'allers-retours. À un moment, elle retourne à Paris pour aller parler à son ex. Ensuite, elle retourne là-bas. Je pense qu'il y avait des manières plus simples d'écrire tout ça et surtout plus efficaces, en fait. Je pense que personne n'est vraiment à son avantage à part Inès Reg, qui nous montre sa capacité à lever la jambe gauche. Et là, elle fait des grands écarts. Et ça m'a rappelé, alors, anecdote personnelle, François, tu me permets aussi, c'est que quand j'étais au kung-fu, fallait jamais sous-estimer quelqu'un à travers son gabarit, parce que tu pouvais avoir un gars qui a le gabarit de Sammo Hung et il te fait des super grands écarts faciaux. Et ben, Inès Reg, c'est exactement ça, c'est que elle a l'air d'une boule d'énergie et elle a l'air d'être capable de te mettre des high kicks. Et ça, quelque part, je respecte cette énergie brute. Je pense que pour cette énergie brute, il aurait peut-être fallu quelque chose de plus ciselé. Et là, ça a été vraiment, on sent que ça a été écrit très très vite, quoi.
Si j'ai bien compris, ils l'ont écrit pendant le premier confinement, en fait, ce film. Ils l'ont tourné cet été et voilà, enfin, eux, ils ont fait la post-prod pendant le deuxième confinement. Donc finalement, en termes de planning, c'était pas mauvais. Je reviens à cette structure, en fait. C'est-à-dire que moi, au fait, au début, je trouvais ça plutôt sympa que voilà, ils soient amis, enfin, qu'ils reprennent leur propre histoire, qu'ils étaient visiblement amis avant de tomber amoureux. Et je pense que ça aurait pu durer vraiment tout le film avec ce personnage, en effet, de Constance Labbé qui débarque et crée aussi, voilà, à un moment donné, elle va mal se comporter et que c'est elle qui aurait dû aller reconquérir Kevin à la fin. Et c'est vrai qu'au bout d'une heure, quand finalement ils se mettent ensemble, Je me souviens d'avoir dit, ah bah, il est déjà fini le film. Et d'avoir regardé, je suis, ah non, il reste 30 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont me raconter dans les 30 dernières minutes?
Mais oui,
vraiment.
Il y a un problème d'acte. Il y a un problème
d'acte. Ils ont voulu faire un truc
très. De pitch narratif.
Mais un truc très à l'anglaise. Par exemple, le fait qu'il débarque à la cour, la cour d'appel, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, le tribunal là. Qu'il débarque là-bas, une fin à l'anglaise un peu excessive. Que moi j'aime beaucoup dans les comédies romantiques anglaises, je suis une pure fan de ça, j'en redemande, mais servez-moi, mettez-moi sur le corps, j'adore. Mais là, c'est juste que ça débarque de nulle part, et ça ne va pas du tout dans la tonalité, comme le fait de leur rupture ne va pas dans la tonalité du film. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce personnage, en effet, très, encore une fois, sous-jeu de Kevin, qui a l'air d'être juste un amoureux transi depuis le début, qui d'un seul coup s'intéresse à une autre meuf. À aucun moment on l'a vu vraiment s'intéresser à une autre meuf, en fait. Et donc je comprends pas pourquoi
c'est la bonne, là, en fait, Constance Labbé. Là, normalement, c'est la bonne, et ensuite, tout d'un coup, ben non, il change d'avis, mais genre, il a, en fait, comme il le joue de manière assez monocorde, tu comprends pas qu'elle
soit. Tu comprends pas qu'elle revienne. Mais qu'elle revienne, mais
il n'y a pas d'alchimie. Il y a zéro alchimie là-dedans.
C'était particulièrement le jeu de Kevin. Il était particulièrement frustrant justement sur cette scène de la salle du tribunal qui est la fameuse déclaration d'amour devant tout le monde, parce qu'il faut toujours que la déclaration d'amour se fasse devant beaucoup beaucoup de monde dans les rom-com à la fin en public.
Là, elle était un peu distanciée là, la cour d'appel là.
et là vraiment, comment c'est frustrant. C'est le speech final, tu sais, quand il arrive et qu'il dit voilà, mais moi je veux qu'on soit ensemble. Et là vraiment, tu te dis mec, s'il y a une scène que tu dois réussir, mais moi juste un tout petit peu plus d'intention dans les phrases et tout dans le texte, c'est là quoi. C'est pas du Audiard, je veux juste là sur cette scène là mec, fais un effort s'il te plaît. Il a pas fait l'effort.
François, tu sais quoi, je me revois exactement, je vois le film et là j'ai dit devant la télé, et ma copine a apprécié le film, je tiens à le dire, elle a beaucoup plus apprécié que moi, et là je lui ai dit écoute mec, c'est ta scène, vas-y, balance tout ce que t'as, tu sais, c'est le moment. Je lui demande pas de faire Idriss Elba, on va canceller l'apocalypse, tu vois, qui est un peu la norme maintenant en termes de pour galvaniser les foules, mais là le moment, c'est le moment où il faut que tu fasses pleurer tout le premier rang du tribunal quoi. Et là Enfin, j'ai déjà vu des Fleury Michon mieux vendus que ça, quoi. Il était monocorde. Il y a un vrai souci, en fait. Il a pas la patate face à Inès Reg. Tu peux pas croire qu'Inès Reg elle soit love de ce personnage-là. Hein, je dis pas dans la vie, mais de ce personnage-là tel qu'il est raconté, quoi.
C'est pas crédible. Et on parlait de structure narrative. Il y a d'habitude pour tomber amoureux, les personnages ils surmontent des obstacles. Et là, on dirait que rien n'a d'importance. Au début du film, Inès Reg se fait larguer par son mec avec qui elle était depuis 3 ans. Elle le grille sur un site de rencontre. Et donc, c'est comme ça qu'elle remonte à Paris pour la première fois là, en furie pour rompre avec lui. Et juste après, elle est là en train de faire la teuf. On n'en reparle plus jamais. On dirait la meuf, elle a zéro bagarre. Elle vient de se faire larguer par son gars de 3 ans, en fait. Je sais pas, elle s'en fout. Même pas, elle fait une mini-dépression. Même pas, il y a une scène de dépression. Je sais pas, au moins une petite... Elles sont un peu tristes, au moins, tu vois, meuf. Cherche-toi des rides.
À un moment, elles sont au restaurant, elles boivent des shots.
Elle boit des shots et elle sourit et elle dit ouais, elle utilise le mot enculé, c'est nul. Elle aurait pu être déprimée par exemple. Et
j'ai un peu cringe là-dessus. Trop de fois le mot enculé pour moi.
Pourquoi par exemple elle cherche pas une relation pansement, et à ce moment-là, le personnage de Kevin en souffre parce que lui il est là au milieu et c'est un nice guy, et elle est là et elle enchaîne les mecs pour oublier son ex, et lui il est au milieu en mode putain, mais t'essaies tous les mecs sauf le bon qui est juste sous tes yeux depuis ton enfance. Enfin, en fait, ce qui m'a frustré sur ce truc-là, c'est que moi, en tant que pauvre scénariste amateur, rien qu'en regardant le film comme ça, j'ai trouvé 10 façons d'améliorer le film et d'en faire un plutôt bon divertissement, tu vois. Et pourtant, j'ai aucune prétention à être un pro. Donc si moi, j'arrive à faire ça, imaginez quelqu'un de professionnel, quoi.
Je voulais... Et Perrine, je voulais ton avis, toi qui es connaisseuse des rom-com anglaises, qu'on adore... Il y a souvent, dans les rom-com anglaises, il y a un savoir-faire dans ce qui est les personnages secondaires. Ils sont souvent craquants. Enfin, j'ai pas besoin de tous les citer, mais Good Food à Notting Hill. Enfin, je veux dire, 4 mariages et un enterrement. C'est des anthologies de personnages secondaires réussis. Et là, il y a, entre guillemets, la fille délurée, vendue un peu comme une nympho, qui est un cliché de la rom-com, qui est supposément c'est l'ange et le démon, hein. Et il y a le personnage de l'ange qui est à savoir l'intello dont on se moque pendant tout le film parce qu'elle lit des bouquins.
Je la nulle.
et mais je oui. n'en peux plus.
Mais alors, oui, mais ça c'est fatigant, mais c'est fatigant, c'est une blague. Enfin, pour moi, le côté on se moque de l'intello qui aime la rando et qui lit des bouquins, il y a un côté. Enfin, je trouvais que c'était un niveau TPMP en fait, de l'insulte quoi. Enfin, au bout d'un moment, j'étais genre ok, donc encore une fois, un personnage qui est un peu intellectuel, c'est forcément une nerd qui est pas dont on doit se moquer. Mais en fait, j'ai pas de problème sur l'écriture concrètement de ces personnages. C'est vrai que les personnages secondaires, moi, ils m'ont moins posé problème fondamentalement, même si encore une fois ce personnage-là de cette fille-là m'a agacé. Ils étaient très caricaturaux, mais en fait les acteurs le jouaient avec une et actrices les jouaient avec tellement de j'ai envie de dire d'une espèce de sincérité, de dynamisme que j'ai trouvé plutôt qui m'ont fait du bien en fait clairement au niveau de la du visionnage du film. Mais pour moi le vrai plus gros problème d'écriture c'est celui de Nina. C'est vraiment, j'ai un vrai problème avec le personnage de Nina. C'est-à-dire que c'est un personnage, je ne vois pas comment on peut l'apprécier. Ce personnage passe son temps à juste insulter cette pauvre fille qui aime bien lire, dire à moitié que sa pote c'est une grosse info, et à juste être méchante avec le mec qui est amoureux d'elle, méchante avec la meuf jusqu'à la taper. Enfin, au bout d'un moment, je ne sais pas, elle est juste chiante à un million de niveaux. Mais pas chiante charmante, elle est chiante.
Et en plus, quand elle la tape, elle s'excuse pas et elle va faire ouais avec ses copines, ce qui est vraiment la conclusion d'un pic qui est vraiment horrible quoi. C'est genre il y a rien pour les rendre sympas exactement.
Non, c'est pour ça qu'à la fin, honnêtement, je me suis dit avant que ça s'arrête avant une heure au lieu d'une heure et demie là, je me suis dit en fait c'est elle qui va s'apercevoir que son comportement n'est quand même pas formidable avec ni avec ses copines ni avec avec ce garçon et que c'est elle qui va devoir le reconquérir et en fait pas du tout, non, c'est encore elle qu'on doit conquérir et c'est vraiment un truc que je pige pas dans le film. En fait, je ne pige pas à quel moment on a envie d'aller reconquérir quelqu'un qui passe son temps à vous bâcher, à moitié à vous insulter. Enfin vraiment, j'ai vraiment un problème sur l'écriture de ce personnage. Autant j'en aime son dynamisme, autant je n'aime pas ce qu'elle projette en fait au bout d'un moment. Je ne comprends vraiment pas ce qu'elle a voulu faire d'elle, en fait.
Je pense qu'ils ont voulu l'écrire de manière à ce qu'elle soit attachante, comme disent les t-shirts.
Oui, oui, elle est plus chiante que attachée.
Et en fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont un peu raté le coche, du coup.
Donc, ce film, j'ai même pas dit, parce que ça paraît que c'est comme une évidence, est disponible sur Amazon Prime. Donc, au moins, je serai reconnaissant de sortir quelques films de temps en temps. Je me demande, à chaque fois que je vois un film sur les plateformes de streaming, je me demande comment ça s'est passé les deals et tout. Et j'ai envie de vous dire, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On est au troisième confinement, là, depuis hier. Pourquoi on n'écrit pas notre rom-com à nous, là? Et c'est ça qu'il faudrait, je veux dire, il faut vendre notre rom-com à Netflix ou à Amazon. Il faut en faire une, là, parce que j'ai beaucoup de frustration avec ce film qui, je suis sûr, Inès Reg, elle a plein d'énergie, en fait, mais il faut qu'elle soit canalisée par un bon scénar, il faut qu'elle soit canalisée par des bons mots.
Non, il aurait fallu un professionnel du scénario, une professionnelle qui vienne lui dire, bon voilà, t'as une base, elle est sympathique, maintenant il faut la structurer. Et là, ça manque vraiment, on sent que ces deux personnes qui ont voulu se faire plaisir et qui aussi racontent leur histoire, je pense qu'il y a une énorme sincérité et beaucoup d'amour dans cette histoire entre eux deux.
Ça se sent à l'écran en plus.
Ouais,
ça,
et puis eux deux sont vraiment charmants, il y a un truc entre eux deux. Mais je n'en doute pas deux secondes. Il aurait juste fallu quelqu'un qui arrive, qui leur dise, bon attends, ça fonctionne pas là, ça fonctionne pas là. Quelqu'un qui leur fasse juste un mini truc de scénario, ça demandait pas grand chose en fait. Ça demandait pas grand chose. C'est juste ça, c'est juste modifier deux, trois petites choses et on avait quelque chose qui était qui dépassait finalement ce premier essai en fait. C'est dommage.
Un peu de tension sexuelle, de tension amoureuse, un peu.
Ouais, de vraie déception, de l'encéphalogramme, pas plat, vraiment de l'oscillation. Et là, il y en a pas vraiment.
Je suis bien emmerdé pour une chose, c'est que la tradition dans MDR, c'est de dire combien on met sur la table pour aller voir ce film. Le problème, c'est que les cinés sont fermés encore et moi j'aurais mis beaucoup d'argent pour être dans une salle de ciné quoi qu'il arrive. Donc même pour voir même avec du popcorn, genre même dans les conditions même en salle UGC salle 30 de l'UGC Ciné Cité, je prenais n'importe quelle salle de Paris pour aller voir ça. Donc ça ne s'applique pas. Et quelque part, je suis assez fâché contre ce film, mais en même temps reconnaissant qu'il soit là. C'est très paradoxal. Est-ce que simplement vous recommanderiez cette rom-com à quelqu'un? Et sinon, voilà, on va faire une reco cachée. Et sinon, qu'est-ce que vous lui recommandez maintenant, là, maintenant, avec toutes les plateformes, avec tout ce qu'il pourrait voir en DVD? Perrine, qu'est-ce que tu recommanderais, toi? Est-ce que tu recommanderais déjà ce film-là? Et sinon, qu'est-ce que tu recommandes?
Je ne sais pas trop si je le recommanderais, pour le coup. Je dirais juste, si vous avez un peu de temps. Après, je suis contente pour lui qu'il puisse exister sur la plateforme. Je ne suis pas sûre qu'avec l'ouverture des salles et l'embouteillage des salles qu'il va y avoir, le film aurait trouvé une place, sa place. Je ne suis pas sûre et je pense que la plateforme était une bonne option, comme ça l'avait été pour Forte au premier confinement. Hein, je pense que vraiment, ça avait été une bonne option pour le film, puisqu'il a pu se trouver un public. Tout à fait là où peut-être en salle ça aurait été plus compliqué. Après, pour le coup, peut-être que je quitte à avoir un autre essai d'une autre jeune humoriste, je recommanderais peut-être plus Forte, en l'occurrence de Melavedia, qui pour le coup je trouve était, en tout cas, si ce n'est parfait, ce n'est pas le cas, plus construit, déjà plus construit.
Et toi, François?
Alors honnêtement, normalement, je devrais vraiment défoncer ce film. Moi, quand j'ai regardé ce film, c'est marrant, j'ai pensé à certaines rom-coms, mais j'ai aussi pensé à un autre film par justement un duo de personnages, enfin de personnes réelles qui, du coup, ont fictionalisé leur propre histoire. J'ai pensé à Comment c'est loin de Aurel San, qui est un film que j'avais vraiment adoré et qui, malgré le fait que c'était un film presque, enfin, même pas seulement presque, autobiographique, il y avait une vraie proposition artistique derrière, il y avait un vrai divertissement, même pour les gens qui connaissaient déjà la vie de
c'était une vraie comédie, ouais.
Mais il y avait un vrai réal aussi derrière.
Il y avait un vrai réal, il y avait un vrai parti pris. C'est ça. Donc franchement, j'ai envie d'être très dur avec ce film, mais bah, le fait justement que je l'ai pas vu en salle, donc où j'ai pas été captif, si vous voulez, et il y a un autre truc aussi, c'est le fait que je suis un peu pris de nostalgie Covid. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il paraît que depuis le début du confinement, les gens se renferment de plus en plus sur des séries réconfort, des séries pantoufles. Moi, par exemple, je remate tout Friends et puis tout.
Ah bah oui, j'ai fait au premier confinement. Je fais tout Friends et tout les nouveaux enfers. Le doudou.
Et ben, je viens de commencer une nouvelle d'enfer, meuf, de recommencer une nouvelle d'enfer. Vraiment, je me glisse dans ces séries comme dans un plaid et ça me fait un bien fou. Et honnêtement, j'ai trouvé ce film vraiment nul, mais j'ai vraiment aimé passer un moment dans cette petite bulle d'insouciance. En fait, j'aimerais bien être un film français, quoi. J'aimerais bien être débile et ensoleillé comme un film français. Et donc, franchement, je vais le recommander quand même. Franchement, je vais le recommander, mais de justesse. Voilà. Et si je devais recommander autre chose, ce serait un autre programme qui parle également d'amour, mais beaucoup plus ambitieux, et qui est également sur Prime. C'est une série qui s'appelle Soulmates.
Ah, mais oui, Soulmates, très bien, bravo.
Tout à fait, ouais, qui est vraiment, vraiment excellente. En gros, c'est une série par l'un des auteurs de Black Mirror. Donc, c'est une série qui a pareil, une sorte de sous-texte science-fiction. Et en gros, on est dans un monde très similaire au nôtre, seulement on a découvert en fait la particule scientifique, physique, de l'âme sœur. Donc on est capable de matcher les gens avec leur vraie âme sœur. Et du coup, en fait, la série, elle prend la forme d'une sorte d'anthologie, de collection d'épisodes, d'histoires qui sont en fait indépendantes les unes des autres. Voilà, exactement. Des variations. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ben, chaque variation, en plus, offre un peu un genre différent. Il y a un épisode qui est très thriller, il y en a un qui est très aventure, etc., etc. Et j'ai trouvé vraiment que c'était une série très agréable à suivre et une réflexion intéressante sur l'amour.
Et tu me redis le nom pour que je le note dans mon
calepin. Soulmates.
Bien sûr.
Soulmates.
Soulmates. Et dans le même genre, c'est marrant, mais...
Putain,
c'est...
l'homme aux 800 recos, vas-y.
Non, mais c'est parce qu'en fait, je viens de voir une série qui est exactement similaire, qui s'appelle The One, mais c'est sur Netflix, One. Et donc c'est pareil. C'est une série britannique, et c'est des gens qui, pareil, ont trouvé la particule scientifique de l'âme sœur, et pareil, c'est une grosse boîte qui décide, du coup, un peu comme Tinder, de matcher les gens, et ça crée du drama, etc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait un traitement totalement différent du sujet, et j'ai préféré Soulmates, donc je vous recommande Soulmates.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre sur Soulmate, c'est de rajouter que je recommande très vivement, je crois que c'est l'épisode 3, qui est une sorte de buddy movie amoureux gay génialissime, avec un des acteurs de Misfits et l'acteur qui jouait notamment le clown de ça. Enfin, voilà, vraiment ce duo et cet épisode est complètement dingo, très drôle, très tendre, très il est, et c'est un vrai coup de cœur cet épisode, il est génial, et mais c'est une vraie belle réflexion. Le premier épisode est particulièrement émouvant et c'est une série qui voilà a une vraie et très très bien, surtout quand elle se rapporte à l'humain et non pas à la technologie, et c'est vraiment très très beau. C'est très très beau quand c'est quand l'épisode est réussi.
Vraiment, c'est cool.
Et pour ma part, moi, je vais recommander une rom-com. Alors, moi aussi, j'ai la nostalgie confinement même celle de confinement de l'année dernière, parce que c'était plus simple. Mon bébé était tout petit, donc je pouvais regarder des films pendant l'après-midi.
T'as déjà eu Daddy Blues, ça y est, il grandit déjà trop vite pour toi.
Ah non, c'est horrible, ne m'en parle pas.
Ah, t'es pas prêt.
Et
hein,
je vais pleurer. Et je m'étais fait un marathon de rom-com, donc j'avais vu énormément de trucs. J'avais vu Always Be My Maybe, j'en avais vu vraiment beaucoup, et il y en avait des plutôt réussis, quoi. Il y en avait des pas mal. Et ma préférée de la saison passée, c'était une que j'avais découvert sur le tard, qui s'appelle Man Up, qui n'est disponible que sur plateforme VOD, et j'ai vu sur Canal+ en streaming. Et c'est une rom-com avec Simon Pegg, donc déjà c'est un très très bon point.
C'est super.
C'est Lake Bell et Simon Pegg. Et le pitch de départ, c'est que ils se font, c'est une blind date accidentelle en fait. Et au lieu que d'habitude dans ce genre de situation, ça soit une comédie sur le mensonge ou si je suis pas la personne que tu crois, là il le dit dans les deux premières minutes. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est génial. Ils sont tous les deux à croquer. Lui, il est tellement adorable, j'ai envie de le bouffer, hein, tellement il est sympa. Tous les acteurs sont super, les dialogues ils sont extraordinaires. Vraiment, je pèse mes mots. C'est une des meilleures rom-coms que j'ai vu dans ces 5-6 dernières années. Et en plus, il y a des seconds rôles mais à génial à tomber, et eux ils sont craquants. Voilà, j'ai rigolé de tout mon cœur, je trouve ça génial. Donc si vous avez l'occasion, Man Up. Je sais qu'en ce moment il paraît qu'il y a un nouveau confinement, donc vraiment ça vaut quelques sous sur votre plateforme de téléchargement ou en streaming, donc sur Canal. Vraiment, je vous recommande ça. Merci à tous les deux d'avoir participé et de vous être pliés au jeu. Franchement, je vous avoue, hein, quand j'ai dit on va faire Je te veux moi non plus, à chaque fois que je lisais le titre, je me disais mais où on va et où on va. Écoutez, j'ai envie de dire, ça a passé le temps. Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que c'est une critique trop sévère? Ça a passé le temps. Voilà, et je remercie presque cette comédie d'être là pendant cette période. Merci à vous deux en tout cas. Pour nous retrouver, c'est William and Dare sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de MDR. À bientôt et bon courage à tous. Ciao.
Ciao.
Salut.